écoles. Louise Touret.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Rue des écoles. Aujourd'hui, nous parlons du bac du futur, de ce à quoi il pourrait ou devrait ressembler. Un mot sur le sommaire de cette émission riche de différentes rubriques avec l'actualité de l'école de l'éducation avec Marie-Caroline Missire. Bonjour.
Bonjour Louise, ravie de vous retrouver.
À votre programme, à vous, dans ces actualités.
Alors très éclectique, on va parler de Parcoursup, de sciences cognitives et même de faits religieux.
On saura tout dans quelques instants, une rubrique en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Et en fin d'émission, nous vous proposons un entretien avec Christian Lacroix, le couturier désormais costumier, racontera à Sophie Bobert comment il a réalisé son rêve d'enfant à travers son métier. Et ce rêve, c'était de remonter le temps. Mais n'attendons pas pour nous attaquer au sujet du jour, le bac. Si les premiers baccalauréats remontent au XIIIe siècle, c'est en 1808 que Napoléon Ier fait du baccalauréat un grade d'État. Les premiers baccalauréats sont passés en 1809. L'histoire du bac fut marquée par de nombreuses réformes. Je vous rassure, on ne va pas toutes les détailler, mais c'est d'actualité. Car simplifier le bac était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron avec quatre disciplines pour l'épreuve finale. Aujourd'hui, une grande réflexion est en cours, c'est la mission Mathio. Quelques éléments en ont filtré, en particulier la fin des séries L, E, S et S du bac général et un nouveau système de majeurs et de mineurs au lycée. C'est encore un petit peu flou, mais voilà qui attise la curiosité et surtout qui excite l'imagination, la nôtre. Un autre bac serait-il possible. Dès ce soir, nous avons choisi de débattre de ce à quoi pourrait ressembler un bac idéal, de ce qu'il est permis de penser pour demain ou après-demain, et pourquoi pas en s'inspirant des exemples étrangers que nos invités connaissent bien. Au cœur de notre réflexion, une idée, qu'est-ce qu'un juste bac, un bac juste, car tout est là. Un examen qui rende justice au parcours des élèves, à leur travail, mais aussi à leur effort pour cet examen. C'est l'équilibre contrôle continu et épreuve anticipée, épreuve finale. Un bac qui soit juste en étant considéré comme étant le même pour tous, quel que soit son lycée d'origine. Et juste, car il conserverait sa valeur à travers le temps. Vous savez, on dit souvent que le bac d'aujourd'hui ne vaut pas le bac d'hier pour aller vite. Et puis, un bac juste aussi, si on s'intéresse à l'égale dignité entre les filières générales, technologiques et professionnelles. Enfin, un bac dont l'obtention peut s'inscrire dans une continuité entre le lycée et l'enseignement supérieur. Allez, je salue tout de suite mes invités. Annabelle Alouche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences de sociologie à l'université de Picardie, Jules Verne, c'est le nom de cette université, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage à la République, publié dans la collection La République des idées au Seuil, La société du concours, l'empire des classements scolaires. Roger-François Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, vous enseignez aussi les politiques éducatives comparées à Paris Descartes, et vous êtes membre du Conseil supérieur des programmes. J'ajoute, ça nous intéresse tout de même aujourd'hui, que vous avez dirigé un rapport d'inspection sur le bac, proposition pour une évolution du baccalauréat, et c'était en 2012. Vous êtes tous les deux comparativistes, hein. Vous aussi Annabelle Alouche, donc on va pouvoir explorer un peu comment on passe le bac ou ses équivalents à l'étranger. Le troisième invité, Antoine Baldassari, est dans les couloirs de la Maison de la Radio. Il arrive, il est documentariste, il a réalisé un documentaire sur le baccalauréat dans un lycée de banlieue parisienne, c'était cette année, en 2017. Ça nous permettra aussi d'entendre un peu les élèves et de partager leurs ressentis. On va commencer avec un petit peu d'histoire, histoire du bac. 200 ans pour sa forme actuelle, 210 ans presque. Une institution scolaire, une mémoire commune et je le disais, des réformes successives. Elles ont toujours beaucoup inspiré la presse. Écoutez.
Pour l'Académie d'Aix-Marseille, qui groupe 7 départements, 18 000 candidats se sont présentés dans la ville des écoles pour affronter les épreuves du bac nouveau. Cette formule New Look est en quelque sorte une répétition générale. Une épreuve qui semble très bien être acceptée, vous le voyez d'après la mine de nos candidats. Cette série de compositions sur le programme du premier semestre ne se déroule pas à l'intérieur des établissements, mais dans des centres d'examen.
Un bac New Look sur un air de jazz, un reportage diffusé donc en 1960 sur l'ORTF. Voilà, le bac a beaucoup changé et c'est peut-être toute la dualité et la complexité de cet objet qu'est le bac, Roger-François Gautier, c'est à la fois un symbole républicain et en même temps un objet très changeant.
A-t-il beaucoup changé ou est-il assez immobile? C'est difficile de le savoir. Il y a autant de signaux dans un sens que dans l'autre. Hein. Je crois quand même que depuis un certain nombre d'années, on sait que c'est beaucoup de gouvernements ont souhaité ouvrir la question du baccalauréat avec plus ou moins de succès et qu'il semble que ça soit quand même une question politique à la fois importante. Pourquoi ouvrir cette question-là, hein, et sans doute assez difficile. Ce qu'on peut quand même voir dans les grandes évolutions historiques du baccalauréat, c'est que, comme vous le rappeliez, c'était et c'est un grade de l'enseignement supérieur. Or, l'enseignement supérieur, au fil des années et des décennies, s'est de moins en moins investi dans le baccalauréat. Voilà, ça, je crois que c'est quand même une question importante. Donc, relève-t-il du secondaire, relève-t-il du supérieur? C'est au cœur de nos questions.
Annabelle Allouche, vous êtes d'accord? C'est devenu un examen qui appartient de plus en plus à l'école et de moins en moins à l'enseignement supérieur?
Effectivement, avec les vagues de massification scolaire qui ont mené, avec plus ou moins de réussite, à des formes de démocratisation, on a eu de plus en plus d'élèves qui étaient titulaires du bac et certaines filières, en conséquence, se sont fermées, certaines filières du supérieur. Et on pensait qu'il était nécessaire pour elle de créer de nouvelles formes de sélection pour identifier les caractéristiques et les qualités des candidats pour ensuite entrer dans le supérieur. Donc on a eu un dédoublement et une perte de confiance, notamment de certaines filières du supérieur, certains établissements, certaines filières dans ce bac.
Dans ce bac qui est très divers, alors on peut rappeler une date, 84, c'est la création du bac pro. Le bac pro, c'est un bac, hein, il ouvre un certain nombre de droits, dont celui d'entrer dans les études supérieures, avec les problèmes parfois qu'on connaît, les problèmes d'orientation des élèves. Le bac, je le disais, est multiforme. Cette idée que tous les bacs ne se valent pas, elle est très persistante. Annabelle Allouche.
Oui, absolument. Alors, il y a...
Entre les bacs généraux.
Absolument. Donc, il y a la question de la valeur économique, si j'ose dire, en termes d'accès au marché du travail. Puisque près de 80% d'une cohorte a désormais accès au bac, ou à peu près, on a l'impression que c'est un diplôme qui vaut moins sur le marché du travail. Certes, mais il vaut quand même mieux être bachelier que ne pas être bachelier, quel que soit le bac. Ce qui a beaucoup changé, ou ce qui n'a au contraire peut-être pas beaucoup changé, c'est la question de la valeur symbolique à titre individuel et à titre politique. Le bac reste quand même un rite de passage individuel. L'adolescent passe, si j'ose dire, à l'âge adulte en passant le bac.
Et on va y venir avec vous, Antoine Baldassari. Je vous ai présenté, alors que vous arriviez dans le studio, documentariste, un reportage en plusieurs volets sur l'année du bac. Et cette année, elle est tout à fait particulière pour les élèves.
Bonjour. Oui, je pense qu'elle est tout à fait particulière. Alors moi, quand j'ai fait cette série, c'était il y a 3 ans maintenant, sont les bacheliers de l'an dernier, en fait. Donc ils sont pas concernés par le projet de réforme, etc. Mais je rejoins madame, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève du rite initiatique, quelle que soit la filière dans laquelle ces élèves se trouvent. Après, en termes de niveau, de contenu, d'études et de niveau de bac, là on peut en parler après, mais en tout cas, sur le plan symbolique, ça reste toujours très fort. Moi, j'ai vu ces gamins qu'on a suivis pendant... Je dis des gamins parce qu'effectivement, je vous rejoins aussi. C'est-à-dire que c'est le basculement de l'adolescence. À tout d'un coup, on devient un adulte. Et tout ça se fait avec la pression, tout ça dans un contexte familial. On est en train de prendre un peu son envol. Et puis, il y a cette pression du bac qui, finalement, culturellement, chez nous tous français, est extrêmement forte. Même si le niveau a baissé, parce que je pense, on peut en parler après, c'est un débat.
Mais il est intéressant de voir que c'est toujours aussi important pour les élèves, évidemment. Et c'est ce qu'on entend à travers votre reportage, dont on peut peut-être passer un petit extrait.
Tu veux dormir? Oui, ça va, toi aussi. Ouf, Si, j'ai bien dormi. Franchement, j'ai bien dormi. Je couchais pas trop tard. J'ai pas trop bien dormi, moi. Hein?
Je me sens un petit peu stressé quand même pour Théo.
Et les entités. C'est bon, tout est dedans.
T'es sûr, hein? T'as fait une question?
J'ai dedans aussi.
Ta bouteille d'eau?
Non, j'ai pas pris d'eau.
On est toujours inquiet pour ses enfants et quand ils passent un examen, on a envie que ça se fasse bien pour eux. Donc forcément, on se met un peu la pression quand même.
Le stress, il a commencé à venir à 22h hier, après. Et là, ça va, ça redescend. J'avoue que ça, depuis ce matin, c'est un petit peu... Coup de poker. J'imagine qu'une fois que je serai devant ma feuille, là, il y a toute la panique que j'aurais dû avoir deux jours avant qui viendra. Mais on verra quand je serai devant la feuille.
Ça paraît être le plus gros lieu commun sur le bac, le rite initiatique, et tous les invités ont envie de réagir. Roger-François Gauthier.
Ben voilà, je suis d'accord avec rite initiatique. Mais justement, là, quand on regarde ce qui se passe ailleurs pour des examens de niveau similaire, je m'inscrirais en faux contre cette histoire pour la France. Parce que, si vous voulez, quand on va dans les classes terminales, comme les réunions, parents, élèves, etc., on se rend compte qu'en bien des lycées, on parle beaucoup plus de l'orientation et de ce qui vient après le bac que du bac lui-même. Alors, le stress, tout ça, je suis tout à fait d'accord, je vais pas dire que ça n'existe pas. Mais je vois que les examens tels qu'ils existent dans certains pays, ce sont des choses beaucoup plus claires. C'est-à-dire que l'année du bac, si je peux dire, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il y a cet examen à réussir, on le fête. Le côté fête de famille, c'est beaucoup plus fort dans beaucoup de pays qu'en France. Côté passage à l'âge adulte, c'est le moment où on peut conduire une voiture, etc., de manière extrêmement forte. Je trouve qu'en France, ce jeu initiatique, il est un peu perverti. Il a perdu un peu de sa netteté.
Néanmoins, vous avez entendu dans le premier extrait, il s'agissait de Théo, qui a un élève brillant, de Terminale L, qui a eu sa mention très bien, etc. Et la deuxième personne que vous entendez juste derrière lui, c'est son père, qui est dans un état de stress. Quand je disais que c'est quelque chose de culturel qu'on se transmet, finalement, son père repassait son bac. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui relève du rite initiatique qu'on a tous connu. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et puis, de l'objet commun, un objet social, et Annabelle Allouche l'a rappelé tout à l'heure, c'est aujourd'hui 80% d'une génération. Je rappelle juste un chiffre aussi, le bac général, c'est seulement 40%.
Évidemment.
Annabelle Allouche.
Oui, pour réagir sur la question du rite initiatique et la comparaison entre la France et d'autres systèmes éducatifs. Ce qui est très intéressant en France, c'est qu'effectivement, le rite initiatique, il est investi dans le support du bac, dans la forme du bac, mais aussi dans ce processus plus ou moins long cours d'orientation. C'est des processus, notamment aux États-Unis, qui sont complètement séparés. Par exemple, quand vous lisez la biographie d'Obama ou de Hillary Clinton, quand elle parle de son passage à l'âge adulte, elle parle avant tout de l'orientation, elle ne parle pas de l'examen.
De l'université fameuse dans laquelle on rentre.
Exactement.
Quand on se destine à diriger le pays, par exemple.
Absolument. De ce processus d'orientation à la fin du secondaire, plus que l'examen final. En France, la particularité, c'est que justement, on a cet examen final terminal, à la fin de la terminale, et en plus, on a ce processus d'orientation. Et le rite initiatique, il relève finalement de ces deux formes institutionnelles, à la fois l'orientation et la certification par le baccalauréat. J'ajouterais que le rite initiatique, c'est pas seulement une logique individuelle, ne relève pas seulement de logique individuelle, mais comme vous l'avez rappelé, aussi de logique politique extrêmement forte. Quand on passe le bac, on va à la rencontre, si j'ose dire, de l'institution, de l'État. C'est un mythe républicain.
Et c'est l'examen anonyme, national.
Absolument. L'État reconnaît sa valeur individuelle sur la même base que tout le monde, quelle que soit son origine sociale ou quel que soit son établissement. Symboliquement, c'est extrêmement fort parce que, justement, on se voit reconnaître sa valeur individuelle sur la même base que tout le monde. C'est ce qui explique sans doute qu'on a gardé au fil du temps ces formes d'anonymat où on les a renforcées d'anonymisation, des copies, donc ces jeux de double correction, de correction anonyme, d'échange de profs entre les établissements, etc., etc.
Je voudrais juste rajouter une
Antoine
chose, si vous me permettez, pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur. L'orientation est évidemment prime sur l'examen, mais je tiens quand même à dire, parce que moi j'ai suivi trois classes, une de terminale littéraire, une de terminale bac technologique, STI 2D, c'est un peu du chinois mais voilà, et une classe de bac pro. Alors, hormis les bacs pro, parce que la filière, elle est déjà tracée, on va se dire, puisque c'était de la restauration, il s'agissait là, en l'occurrence, de restauration. Mais dans les deux autres classes, la majorité des élèves, malgré les fameux vœux APB, et d'ailleurs j'ai suivi des profs, qui leur prof principal, qui passaient leur temps à leur dire « n'oubliez pas », le proviseur qui passait dans la classe en disant « n'oubliez pas ». Et moi j'ai vu des élèves qui, pour la majorité, ne savaient absolument pas vers quoi s'orienter. Et finalement, on était bien au jour le jour sur cette échéance du bac. Donc, on revenait finalement au fait de l'avoir. Après, on verra. Et d'ailleurs, ça pose sans doute un problème.
C'est ce que vous disiez, Roger-François Gauthier. Il y a, dans l'année de terminale, deux choses à faire. S'orienter et passer son bac. Donc, ce n'est pas du tout « passe ton bac d'abord », mais « passe ton bac et réfléchis à ton orientation ». Je me permets de tutoyer quand je parle des élèves. Un autre élément, il y a donc des dizaines de bacs assortis de dizaines d'options combinées. Ça donne des centaines de milliers de possibilités. Quand on passe son bac, on passe le bac, mais on passe aussi un bac en particulier, avec une hiérarchie qu'on connaît tous entre les bacs, elle pèse tout de même très lourd, Roger-François Gauthier.
Alors, il y a deux choses, si vous permettez. Je reviens un instant sur cette histoire, parce que l'orientation, c'est pas simplement une histoire de terminale. Le lycéen français, depuis la fin du collège, hein, fin de troisième, fin de seconde, entrée en première, etc., il est confronté à des questions d'orientation. Il est dans un parcours du combattant d'orientation. Tout ça, ça veut dire que le bac, au total, même s'il a cette valeur de confrontation à l'institution qu'Annabelle relatait, il est quand même contesté par ce jeu d'orientation qui a pris le pouvoir.
Et qui commence extrêmement jeune, dès le collège. Et
c'est absolument, absolument.
Peut-être beaucoup trop jeune, c'est une autre question.
Là, la comparaison internationale permet de le voir. Vous regardez le lycéen italien, il entre au lycée pendant 5 ans, il est tranquille, quoi. Il est tranquille, c'est-à-dire qu'il travaille, mais il n'y a pas d'orientation au milieu. On attend l'examen, c'est le truc important. Alors, votre deuxième question, les séries, d'abord.
Et la hiérarchie.
Et la hiérarchie des séries. Alors, il faut quand même aussi dire que cette histoire des séries de baccalauréat, hein, c'est-à-dire ce qu'on connaît sous le nom de A, B, C, etc.
Maintenant, c'est L, enfin, on n'a peut-être pas passé les mêmes tous.
Bon, c'est-à-dire un...
Je vous mets au défi de vous y retrouver, hein, d'ailleurs.
Ah mais ne me lancez pas aujourd'hui. C'est justement ce que je suis en train de démontrer, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une série? Une série, c'est l'idée d'avoir, si on prend des comparaisons au restaurant, hein, d'avoir un menu avec une entrée, un plat de consistance et un dessert. Hein, c'est l'histoire d'avoir un certain équilibre. D'accord? Donc, ça part d'une idée intéressante, et c'est sans doute une des valeurs de la tradition des études en France. Bon, là aussi, hein, traversons la Manche, rien de tout ça, hein. L'élève, il choisit trois enseignements entre les, ça peut être trois desserts, pour garder ma métaphore, hein. Ça peut être trois desserts. Personne va l'empêcher de prendre trois desserts. Nous, il y a cette idée que, bon, finalement, qu'on prenne le bac.
Parce qu'il y a une idée de culture générale.
Absolument. En Angleterre, puisque c'est un pays sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches, c'est pas exactement ça. Dans les établissements les plus favorisés, malheureusement, il y a un menu qui est quand même imposé aux élèves. C'est-à-dire que certes, il y a 60 disciplines et l'élève est tout à fait en droit de choisir, par exemple, lettres, philosophie, anglais ou théâtre, cinéma et sociologie, puisqu'il y a aussi des disciplines qui existent en Angleterre.
Je rappelle que vous êtes sociologue.
Oui, qui existent évidemment, qui existent en Angleterre, qui n'existent pas en France. Mais les établissements les plus favorisés ont tendance justement à encadrer ce choix-là en disant, puisque les universités ont tendance à sélectionner par exemple sur la base des mathématiques, il faut que vous fassiez au moins un minimum de mathématiques. Donc c'est pour ça que le menu est un peu encadré en fait.
Et vous parlez des mathématiques, c'est sûrement pas innocent parce qu'on sait très bien que ce qui aujourd'hui pèse très lourd dans la hiérarchie des bacs, c'est la présence des matières scientifiques, c'est le bac S qui est le plus coté, je le constate, hein, et ce n'est pas quelque chose dont je me réjouis particulièrement, mais en tout cas, on sait aussi que les bacs littéraires qui comptaient des forts coefficients de mathématiques étaient à une époque plus cotée, peut-être le sont-ils toujours. Est-ce que cette hiérarchie, elle existe en Angleterre? Est-ce que c'est pareil partout et dans des pays comparables aux nôtres, Jean-François Gauthier?
Ah non, sûrement pas. Sûrement pas. Je veux dire que cette question des hiérarchies, je suis bien d'accord avec ce qu'Annabelle a apporté comme regard de la sociologie. Je sais cela sur la manière dont se constituent les cartes, hein, pour reprendre le mot du restaurant, dans les lycées anglais. Cela dit, quand même, le jeu français des séries, avec leur mise en hiérarchie, combien de ministres n'avons-nous pas entendu depuis des décennies, hein, disant que la grande question du lycée, ça va être l'expression qui est employée, de rééquilibrer les séries. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire rééquilibrer, on n'en finit plus.
Alors, peut-être que c'est cette notion de série qui est à réinterroger. Par exemple, pour le bac général, on sait que la filière littéraire s'est littéralement vidée depuis une vingtaine d'années.
Oui, mais si vous voulez...
En
raison de cette hiérarchie, parce que les familles ont fait rapidement le calcul qu'il y a actuellement. Mais ça, c'est des choses banales. Hein. Qu'il y a une des séries qui permet de garder tous ses choix plus longtemps, et que c'est la série scientifique, etc., etc. Ça veut pas. Alors, l'éternelle question, est-elle scientifique suffisamment ou pas? Voilà. Donc, la question intéressante à poser, c'est que ce jeu français des séries, il est intéressant parce que, je crois, il garde quand même cette valeur de culture générale que vous disiez tout à l'heure. Mais en même temps, est-ce que telles qu'elles sont dessinées, des séries, est-ce que ça n'enferme pas tout le monde dans un jeu qui fait que le jeu social, les hiérarchies sociales se réemparent chaque fois de l'affaire pour faire qu'on n'avance pas, quoi?
Autre élément, si on veut considérer la diversité du baccalauréat, ce sont les bibacs. Parce que là, on parle des exemples de bacs à l'étranger. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'élèves passent des bacs à la fois français et italien, puisqu'on a parlé de l'Italie, français et espagnol, etc. Il y en a de plus en plus. Et là aussi, c'est un moyen de te distinguer, principe qui est très fort aussi, en tout cas pour certains bacheliers. La distinction, c'est un sujet que les sociologues connaissent bien, Annabelle Alouche.
Oui, absolument. Pour revenir, donc effectivement, il y a tout un ensemble de stratégies de choix scolaires et de choix de bac, et notamment les fameuses sections européennes qui n'existent plus, ou les doubles bacs qui permettaient, ou qui permettent encore, on ne sait pas encore, de continuer à se distinguer au regard de l'orientation.
Et de montrer sa valeur scolaire.
De montrer sa valeur scolaire, mais aussi sa valeur sociale au final, et notamment au regard de l'orientation vers le supérieur à venir. Ce qui est très intéressant sur la question des hiérarchies entre les filières, c'est qu'elles recoupent en fait des hiérarchies disciplinaires, purement et simplement. Dans nos sociétés contemporaines, les mathématiques sont valorisées parce qu'elles symbolisent finalement la logique, l'abstraction. Et c'est l'abstraction finalement qui est le plus valorisé dans le système éducatif, et c'est en ce nom-là que les mathématiques sont extrêmement prisées, même si elles ne correspondent pas au goût et au désir, si on peut employer ce mot, des élèves. C'est d'autant plus que je suis une ancienne de la filière L et très fière de l'être. Il se trouve qu'en seconde, j'étais une bonne élève et que mes professeurs, essayant d'anticiper les biais d'entrée dans le supérieur, m'ont plutôt conseillé d'aller en S. Refus total de ma part, je voulais absolument aller en L. Les profs ont échangé entre eux et finalement ils m'ont laissé partir en L. J'encourage tous les lycéens ou toutes les familles qui sont dans ce cas-là à encourager leurs élèves à aller en L, puisque c'est une filière très intéressante.
Voilà. Mais pas forcément très valorisée. On va revenir au bac en général. Il est beaucoup dit qu'il est devenu trop facile. Ça paraît être une question simple, mais en même temps, cet examen qui est obtenu par plus de 90% des élèves, et même quand on parle du bac professionnel, la réussite est massive. Est-ce que ça ne le dévalorise pas qu'en disent les élèves, Antoine Baldassari?
Alors, ça c'est une question, je trouve, intéressante. Et je ne pense pas qu'on puisse réagir en se disant « le bac ne vaut plus rien, l'enseignement ne vaut plus rien ». Ce n'est pas si simple que ça. Moi, j'ai parlé longuement et régulièrement avec le proviseur du lycée dans lequel on a tourné pendant une année. Et lycée public, hein, et multifilière. Et son discours, c'était de dire, parce qu'on avait abordé ensemble l'histoire du ranking, les meilleurs lycées de France, les meilleurs résultats, le classement, etc. Et lui me disait, mais mon rôle à moi, ce n'est pas d'avoir 100% de réussite au bac. Mon rôle à moi, c'est d'avoir 100% de non-échec d'élèves, enfin de scolariser le maximum d'élèves le plus longtemps possible. Et du coup, quand on veut scolariser le maximum d'élèves le plus longtemps possible, ça veut dire qu'on veut pas les laisser au bord de la route. Et du coup, il y a un nivellement forcément, par le bas sur la connaissance, sur le niveau scolaire. Les séries technologiques que je connaissais pas, d'ailleurs, moi, parce que moi, à mon époque, ça n'existait pas. On était soit dirigé en CAP ou en BEP ou je sais pas quoi, soit en filière générale. Et là, sur les séries technologiques, l'idée, c'était de dire, et j'en ai parlé beaucoup avec les profs, c'était d'arriver à rattraper par le col des élèves qui étaient en train de se déscolariser en fin de collège. Qui avait besoin, et là je vous rejoins madame, de choses très concrètes et d'un enseignement moins théorique de façon à ne pas perdre son attention et à apprendre sur, un peu sur le tas par l'expérience. Et d'ailleurs j'ai observé que sur ces bacs ils menaient des projets sur l'année où on fabriquait quelque chose, on essayait de construire un projet et du coup ça pose une vraie question, c'est de se dire est-ce que on va vers un enseignement finalement à deux niveaux où il y aura les lycées d'élite qui produiront de l'élève qui pourra aller dans les grandes écoles et puis à côté de ça des élèves qui seront d'un niveau bien moindre, bien inférieur, mais qui via différentes filières resteront scolarisés le plus longtemps possible. Ça c'est une vraie question je pense aujourd'hui.
On peut la soumettre à Roger-François Gauthier, par exemple.
Moi, je pense qu'un examen national à ce niveau-là, c'est un excellent outil de mesure, si on veut s'en donner la peine. Le problème qui fait que je vous rejoins, c'est que le baccalauréat aujourd'hui, il est très peu étudié. Répondre à la question, est-ce que le niveau baisse, est-ce que le niveau monte?
Vous voulez dire, il est très peu étudié comme objet par les spécialistes de l'éducation
aussi
et les
scientifiques. Paradoxalement, aussi bien les services du ministère que la recherche passent peu. C'est une mine de données. Une session de baccalauréat, c'est une mine de données. Je vois dans beaucoup de pays étrangers, quand une session de bac est finie, on commence à travailler sur les résultats, sur ces données, pour savoir ce qu'ils savent. Bon. En France, il y a très peu de choses, et pour telle ou telle discipline, de temps en temps, les travaux, mais on n'a rien de global là-dessus. C'est vraiment une question.
Donc le bac idéal, ce serait peut-être celui qu'on aurait plus étudié pour apprendre ce qu'il en est sur le terrain et réformer en connaissance de cause. J'espère quand même que la commission qui travaille en ce moment, la commission qui travaille au rapport Mathieu, est bien informée. On va passer aux actualités, on viendra vers vous tout à l'heure, parce que c'est le moment des actualités avec Marie-Caroline Missire. Vous allez voir, elles vont beaucoup vous intéresser, Antoine Baldassari. Et oui, l'école faisait lundi sa petite rentrée, la rentrée de janvier, une rentrée menée tambour battant. C'est devenu une habitude pour le ministre Jean-Michel Blanquer.
Et en communication politique, on appelle cela imposer son agenda. Et c'est exactement ce qu'a fait cette semaine Jean-Michel Blanquer avec l'annonce de l'installation d'un conseil scientifique de l'éducation nationale, présidé par le professeur au Collège de France et spécialiste des sciences cognitives, Stanislas Dehaene. Je n'ai pas fait le recensement de la quantité d'articles, d'interviews consacrés à la question, mais la thématique a largement dominé cette semaine de rentrée.
D'ailleurs, on peut retrouver l'entretien qu'il a donné à Caroline Brouet hier dans les matins du samedi, en ligne sur le site de France Culture ou ailleurs. Mais revenons à vous, Marie-Caroline Missire, sur le fond.
Pas de surprise. Dans son livre programme L'école de demain, Jean-Michel Blanquer cite largement les travaux du professeur Dehaene sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, dans l'apprentissage de la lecture notamment. Sans être intime, les deux hommes s'apprécient. Et l'idée de rapprocher le monde de la recherche scientifique et celui de l'école est particulièrement chère au ministre. En témoigne sa participation jeudi à un colloque organisé sur le sujet à Paris, dans lequel intervenait Stanislas Dehaene. Ce colloque, qui réunissait plusieurs centaines de doctorants, chercheurs confirmés, recteurs ou inspecteurs, a mis sur le devant de la scène 19 initiatives sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet IFRAN, qui sont dotées quand même de 22 millions d'euros, issus des investissements d'avenir. Tous ces projets financent des expérimentations utilisant le numérique dans les classes. Et en parallèle, des chercheurs sont chargés d'évaluer scientifiquement l'impact sur les apprentissages de ces outils numériques. Un projet mené par les équipes du professeur Dehaene a d'ailleurs été retenu dans ce cadre. Baptisé Ludo, il évalue l'efficacité de nouveaux outils d'apprentissage de la lecture chez les enfants. Et au-delà de l'effet com, c'est une véritable philosophie de la conduite de l'action publique qui s'exprime à travers cette séquence, cette semaine, en trois temps. Expérimentation, évaluation la plus scientifique possible, généralisation dans les classes. L'objectif, eh bien, de contourner, en s'appuyant sur la science, les clivages qui traversent l'école et la pédagogie depuis des décennies, pédagogue républicain, gauche-droite, tradition, modernité. Dans son discours mercredi à ce fameux colloque, Jean-Michel Blanquer s'est défendu de toute démarche scientiste et il a souligné la cohérence entre la démarche IFRAN de ses appels à projets et son propre projet pour l'éducation nationale.
Et aujourd'hui, dans un long article du journal du Dimanche, on apprend dans la bouche de François Baroin que cet appétit pour les sciences cognitives est ancien. François Baroin est très ami avec Jean-Michel Blanquer, on l'apprend aussi.
Absolument, je le cite, François Baroin, ça remonte à très très loin. Il commente justement cet appétit pour les sciences cognitives de Jean-Michel Blanquer. « Mon père était passionné par le fonctionnement du cerveau », nous dit-il. « Quand on avait entre 18 et 20 ans, on a eu la chance de participer à la maison à des réunions de chercheurs dont Henri Laborie. Jean-Mi est devenu un excellent connaisseur de ces questions. »
Jean-Mi.
Jean-Mi, absolument. Stanislas Dehaene, lui, entend s'adresser directement aux élèves et à leurs parents. Il veut mettre à disposition des profs les derniers résultats de la recherche en éducation, adosser le plus possible les manuels scolaires à ces résultats et construire des modèles d'évaluation des élèves. Et surtout, surtout, ne pas remettre de rapport, une autre façon de dire qu'il entend bien plus agir que de donner à réfléchir.
Bon, on verra. On peut d'ailleurs... Non, alors j'ai parlé déjà de son entretien avec Caroline Brouet. Nous passons au supérieur avec l'ouverture demain de la nouvelle plateforme APB. Non, Parcoursup.
Eh oui, Louise, exit APB, on l'a compris. Bonjour, Parcoursup. Après le scandale l'été dernier d'étudiants tirés au sort pour entrer dans certaines filières ou de milliers de bacheliers sans affectation à la veille de la rentrée, ce nouveau système d'affectation des lycéens dans le supérieur est très, très attendu. Et sur ce sujet, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas droit à l'erreur. Au-delà du changement de nom, les règles du jeu, elles aussi, évoluent. Au lieu de saisir 24 vœux, les lycéens n'en rentreront plus que 10 sur la plateforme et n'auront pas à les classer. Le conseil de classe du second trimestre formulera un avis sur le dossier de l'élève et deux professeurs principaux plutôt qu'un, dédiés à leur orientation, seront là pour le conseiller. Enfin, chaque filière universitaire a fait connaître ses attendus un peu avant Noël, c'est-à-dire le socle de connaissances à acquérir pour réussir dans telle ou telle voie. Des attendus jusqu'ici très théoriques qui vont être complétés par les universités elles-mêmes. Les universités, justement, pourront accepter des élèves à condition qu'ils suivent des modules de formation à ces fameux attendus. Une sorte de mise à niveau préalable à l'entrée à l'université et une petite sélection quand même, il faut bien
une
le dire.
Une petite sélection déjà contestée. Plusieurs tribunes sont parues dans la presse, dont une dans le journal Libération que vous avez signé, Annabelle Alouche. Puis il y a la question des moyens, parce que la remise à niveau, avec quels moyens, on ne sait pas encore. Pouvez-vous, Marie-Caroline, nous redonner le calendrier, la procédure Parcoursup, puisque ça, ce sont des éléments précis et on les connaît.
Alors, les élèves de terminale ont jusqu'au 13 mars, 18h, pour saisir leurs vœux dans la nouvelle plateforme, puis jusqu'au 31 mars pour finaliser leur dossier d'inscription. Les résultats d'admission seront connus à partir du 22 mai et jusqu'au 21 septembre. Et puis, comme chaque année, à partir du 26 juin, une procédure complémentaire d'inscription sera ouverte dans les formations où il reste des places. Vous retrouvez bien sûr toutes ces informations dans le numéro spécial Parcoursup que vient de publier le magazine L'Étudiant et puis sur nos sites, je le signale.
Voilà, L'Étudiant dont vous dirigez la rédaction est notre partenaire, je le redis. Une information est passée relativement inaperçue cette semaine, Marie-Caroline, le retour de l'enseignement du fait religieux à l'école.
Et il faut le rappeler, l'enseignement du fait religieux est prévu dans le rapport annexé à la loi de 2005, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et il est pourtant assez inexistant en France. Lors de rencontres à l'Élysée avec les responsables des cultes, le président Emmanuel Macron a réaffirmé la nécessité de développer l'enseignement du fait religieux à l'école. Le 21 décembre, Jean-Michel Blanquer a même déclaré que les esprits étaient désormais mûrs pour cela. Au sein du ministère, un groupe de travail est en train de plancher sur le sujet. C'est le quotidien La Croix qui nous le dit cette semaine.
Un petit retour rapide, Marie-Caroline, sur cet article consacré au ministre dans le JDD. Donc.
Du savant au politique, tel aurait pu être le titre de ce long article que signe la journaliste Anna Cabana dans le JDD. À la rentrée, la même journaliste avait mis en scène le ministre qualifié de techno, caressant le platane centenaire des jardins du ministère. Et de cet article tout aussi élogieux, on retient les hommages appuyés de ses prédécesseurs, Luc Ferry et François François Bayrou qui nous dit « Les pédagogos sont contre lui, mais on ne les entend plus parce que la base est pour lui », analyse le centriste. À noter enfin la mue opérée par le ministre chouchou du président et de sa femme Brigitte et cette citation en forme d'aveu « Je suis un homme politique ».
Mais on verra ce qu'en diront les pédagogos. Je trouve l'expression assez cocasse. À l'avenir. Aujourd'hui, nous parlons du bac dans Rue des Écoles, un bac qui va se transformer, mais comment, on ne le sait pas encore. Alors imaginons le bac de demain. Enfin, avant d'imaginer, on peut revenir à des questions très, très concrètes. Si on réforme le bac, c'est aussi pour faire des économies, car cet examen, aujourd'hui, il coûte très, très cher. Roger François Gauthier.
Oui, la question du coût de l'examen, moi, je vais intervenir là-dessus aussi de façon un petit peu distanciée. Qu'est-ce que c'est qu'un examen qui coûte trop cher ou qui coûterait pas assez cher? Franchement, je le sais pas. La question a été souvent posée pour le baccalauréat. Ce qu'on peut se demander, c'est finalement, par rapport à un coût qu'il représente, est-ce qu'il a la qualité qu'on peut en attendre? Hein, est-ce qu'il rend pour tel montant, est-ce qu'il rend tel service? Vous voyez? Et je crois qu'aujourd'hui, et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait commencé à évoquer tout à l'heure, il y a quand même autour du baccalauréat une espèce de flou quant à qu'est-ce qu'il prouve chez les bacheliers, chez ceux qui l'obtiennent, si vous voulez. Donc, moi, je crois que la question qui est importante, c'est pas de savoir si le bac coûte trop cher ou pas assez cher, c'est comment produire un bac de meilleure qualité, hein, qui ait une signification véritable à la fois pour les élèves et pour la population. Je crois, comparé à d'autres examens similaires à l'étranger, que ce n'est pas le cas du bac aujourd'hui. Il a un progrès à faire.
Quels exemples à l'étranger pourriez-vous nous donner?
Ah ben, tout simplement, alors ça, on est obligé d'aborder une question un petit peu technique. Vous demandez à un lycéen, si je peux dire, anglais, est-ce que tu as eu le A-level? La question n'a aucun sens. Aucun sens. La question, c'est de savoir dans quelle discipline il a eu le A-level et à quel grade. On a donc là des examens qui sont pleins de signification. Je crois que c'est un point important, cette histoire de la signification d'un examen. Hein. Je fais partie d'un groupe à l'université d'Oxford cette année, où je vois mes collègues ou équivalents de différents pays qui travaillent là-dessus. La question d'un meaningful examination, d'un examen qui veuille dire quelque chose. Le baccalauréat aujourd'hui, si vous voyez le jeu des coefficients, le jeu des points en plus, le jeu des séries, etc., et la complexité même que vous évoquiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il prouve chez l'élève qui vient d'y réussir, c'est pas aussi clair.
Et pourtant, on s'achemine peut-être vers un bac à la carte, un bac qui pourrait s'articuler entre majeur et mineur, un bac que chacun construirait en cohérence avec ses goûts, son parcours ou ses ambitions. Et ça, est-ce que ça lui donne un meilleur rapport coût-qualité, pour reprendre vos propos, Roger-François Gauthier ? Et est-ce que ça lui donne plus de sens, de signification à Annabelle Allouche ?
Alors, ce qui est très intéressant au niveau du sens, de la signification et de la valeur politique et collective du baccalauréat, en prenant l'exemple anglais, c'est que le baccalauréat anglais, les A-levels, comme vous l'avez dit, c'est un bac qui est déjà modulaire. Et les Anglais sont en ce moment en train de réfléchir au retour à des examens terminaux. Donc c'est un bac modulaire dans le sens où l'élève choisit des modules différents. Ce n'est pas organisé selon une filière, mais des choix de matière, des choix de modules. Et l'examen et aussi les formes d'évaluation sont modulaires. On peut être évalué au milieu de l'année, à la fin de l'année, par contrôle continu. Il n'y a pas d'examen terminal comme le baccalauréat. Et les Anglais sont en train de se détacher de ce modèle-là en disant « ce modèle-là, finalement, il ne nous permet pas de mesurer la valeur scolaire des élèves et il est contre-intuitif concernant pour faire progresser les élèves, justement. » Et donc, les Anglais sont en train de revenir à des formes françaises de baccalauréat. C'est pas les seuls, en fait. Si vous regardez un rapport de CNESCO de 2016...
Donc le Conseil National d'Évaluation des Politiques Scolaires.
Absolument. On voit que les examens terminaux, comme le baccalauréat français, sont de plus en plus populaires dans les pays de l'OCDE. Il y en avait 14 pays de l'OCDE qui avaient des examens terminaux à la fin du secondaire. Et aujourd'hui, c'est 25 ou 27, il me semble.
Alors, l'entreprise du lycée napoléonien conquiert l'Europe, finalement 200 ans après. Et j'ai quand même une question sur ces changements différents dans les pays. Là, on nous dit que peut-être la part de l'oral deviendra plus importante dans le nouveau bac. Et on se dit, bah oui, l'oral, c'est tout de même important. Peut-être faut-il lui donner une place un peu plus importante, peut-être. Et en Italie, où la place de l'oral est très importante, eh bien là, on décide que finalement, on va peut-être la mettre un peu entre parenthèses, ou en tout cas la baisser et donner plus d'importance aux examens écrits.
J'y viens, mais tout de même, Annabelle, tout dépend sur quoi les systèmes. Tout dépend sur quoi on les oppose. Si on les oppose sur le fait épreuve terminale ou épreuve en cours de scolarité, oui, vous avez raison. Mais moi, je crois qu'il y a un point qui est plus important, c'est qu'en Angleterre, avant comme après, on obtient le baccalauréat par certificat. On ne compense pas, dans le modèle anglais, des carences en mathématiques par des capacités particulières en histoire. Et ça reste extrêmement caractéristique du baccalauréat et des examens de l'enseignement supérieur en France. Et c'est un modèle qui me semble quand même à interroger, cette question de la compensation. Hein. Je crois que c'est un point tout à fait important. Quand je prends un avion, hein, j'espère que le pilote, il n'a pas eu l'autorisation de diriger l'appareil, de conduire l'appareil, par une compensation entre une épreuve de décollage, hein, de simulé.
Je suis vraiment pas sûre, par exemple. Donc, comme je l'ai déjà dit, moi, je suis une ancienne de la terminale L, et on pouvait pas compenser la philo vu le barème de la philosophie. Il y a des matières qu'on peut pas compenser. On peut pas compenser l'histoire par les maths en filière S.
Non, mais c'est important quand même pour la valeur du bac, mais pas forcément de son bac, mais du bac en général dans la société, de se dire, ben voilà, c'est l'examen qui garantit une forme de culture générale, alors qu'on dit beaucoup aujourd'hui, parce qu'on doit aussi s'en faire l'écho quand on en parle, que ben, c'est plus que c'était, que les bacheliers d'aujourd'hui sont bien moins bons élèves et moins cultivés que ceux d'hier.
Oui, alors encore une fois, est-ce que le bac d'aujourd'hui est plus facile que celui des années 50? Je ne sais pas, en comparant pied à pied le public, le type d'enseignement est transmis, etc., l'organisation du travail, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y avait moins de matière, moins de possibilités finalement de s'exprimer. Une meilleure reconnaissance aujourd'hui dans le système éducatif de la créativité, de l'individualité. Je ne dis pas que c'est forcément bon. Ça peut avoir des conséquences en termes d'inégalité sociale entre les élèves, évidemment.
Comme on l'a dit en première partie. Mais finalement, ce bac plus diversifié, plus modulaire, et puis cette place différente des disciplines, ça revient évidemment à toucher à l'architecture même du lycée, puisque le lycée tel qu'il fonctionne aujourd'hui, eh bien, il fonctionne tout de même dans la direction du bac, l'examen final qui couronne la scolarité, en tout cas la scolarité au lycée. Si on change le bac, c'est le travail même des enseignants qui s'en trouvera transformé. Roger-François Gauthier.
Oui, bien sûr. Et ça dépendra aussi de d'autres questions qui ne sont pas du tout secondaires, à savoir quel compte tient-on dans le baccalauréat du travail qui est fait avec les enseignants au cours des années de scolarité.
Hein? Alors, et la réforme actuelle, il me semble, ne va pas dans ce sens-là, justement, puisqu'il y aura des examens qui auront lieu plus tôt que prévu, enfin plus tôt qu'aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple au milieu de l'année pour les majeurs du nouveau bac. Et il me semble que ce travail d'accompagnement des enseignants, réalisé par les enseignants, sera moins valorisé, voire moins reconnu, puisqu'il y aura simplement quelques mois pour faire travailler l'élève.
Aujourd'hui, dans le baccalauréat tel qu'il existe, il n'est pas pris en compte, le travail effectué au cours des années de scolarité.
Il est pris en compte, notamment dans la meilleure façon de l'objectiver, c'est les progrès que font l'élève. Donc, les progrès que font l'élève, c'est le fruit du travail de l'élève, mais aussi, on suppose, évidemment, le travail de l'enseignant.
J'entends bien, mais je veux dire, pris en compte pour l'examen, hein, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays, je pense à la Suède, etc., qui ont des équilibres entre ce qui se passe lors des épreuves finales et la prise en compte de ce qui est fait avant.
Et c'est ça l'idée de justice aussi sur laquelle je démarrais, c'est un équilibre entre la reconnaissance du travail en continu de l'élève et la valeur que doit avoir un examen en tant que tel.
Alors, je suis tout à fait d'accord, notamment, c'est notamment le cas de la Norvège qui, sur le bulletin de finale, fait apparaître les commentaires et la progression en termes de notes de l'élève.
J'avais dit que vous étiez comparativiste, hein, vous connaissez vraiment bien les bacs à travers le monde. Antoine Baldassare, sur ce bac à la carte et le nouveau bac.
Mais je pense que le bac à la carte, il existe déjà, hein, parce que dans le lycée dans lequel je tournais, il y avait 52 options. Vous parliez de compensation tout à l'heure, mais effectivement, à la fin, on ne sait plus quelle est la valeur réelle du bac que l'élève a passé, puisqu'il peut compenser des matières principales dans lesquelles il est moins bon, par des options qui vont de...
Il y a des centaines de milliers de façons de passer le bac, de possibilités.
Exactement. Et je voudrais revenir sur une chose. Vous parliez tout à l'heure d'une réflexion en Angleterre, un peu partout, d'une remise en question en Italie du bac, etc. Moi, je me demande si cette remise en question-là, cette réflexion, elle n'est pas du fait que le niveau général des élèves a baissé. Parce que on disait dans les années 50, vous parlez des années 50, on parlait de faire ses humanités, on parlait d'une culture générale qui nous permettait d'accéder après à une filière d'enseignement supérieur. Et moi, j'ai la sensation, dans ce que j'ai vu, hein, je ne parle que pour ce que j'ai vu, d'élèves totalement désemparés devant des disciplines totalement inadaptées au monde dans lequel eux vivent. Parce qu'il y a un fossé entre ce que nous vivons, nous adultes, et ce que eux vivent. Réseaux sociaux, smartphones.
C'est peut-être heureux d'ailleurs.
Non, mais voilà, il y a aucune critique dans ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dichotomie entre un discours qui voudrait qu'on ait quelque chose de formidable et une réalité sur le terrain. Moi, j'ai vu, vous parliez des bacs L, madame. Moi, j'ai vu en philo des élèves, y compris de très bons élèves, qui me disaient ne rien comprendre. On sait tous et on a tous lu des histoires de profs corrigeant des copies du bac où le discours ou la dissertation était inintelligible parce que les élèves n'ont plus le niveau pour ça. Et moi, je pense que je finis juste là-dessus. La volonté de réformer, elle est formidable. La volonté, en plus, j'ai une ado, moi, qui est en seconde aujourd'hui, vous voyez, donc je suis en plein milieu, je suis en plein dans le truc. C'est-à-dire que je sais que l'an prochain, il va falloir qu'elle se décide déjà pour quelque chose. Et je pense que mixer un contrôle continu avec des matières réelles et maîtriser et un examen symbolique, évidemment que c'est ce que tout le monde... j'imagine, voudrait pour les années à venir et pour les élèves.
Mais c'est l'épineuse question du niveau. Antoine Baldassare, vous faites l'écho de quelque chose qu'on entend tout le temps et partout. Et les profs d'université,
c'est pas
les professeurs...
C'est pas un poncif, hein. Moi, non, je l'ai vu, franchement.
Je vous dis qu'on l'entend pas comme un poncif, mais j'allais prolongée. Les professeurs d'université le disent, les étudiants qui ont pourtant décroché le bac, et c'est la question aujourd'hui des prérequis à l'université, quand ils arrivent en licence, certains d'entre eux ont un niveau en rédaction, en compréhension, bien médiocre parfois.
Bien sûr, ils ont un niveau hétérogène en arrivant en L1, mais le rôle de l'État, du service public de l'université, c'est leur offrir la possibilité de s'améliorer et au final de réussir pendant la licence. En tout cas, c'est mon rôle, enfin, c'est ma vocation en tant qu'enseignante, chercheuse universitaire et qui va retrouver mon amphi de L1 demain à 9h, c'est de faire réussir de première année, c'est de faire réussir tous mes élèves de la même façon, ce qui nécessite des moyens financiers, des moyens humains.
Que je n'ai pas.
Je me permets, en construisant des programmes adaptés, mais j'ai besoin que le ministère soit derrière moi. Et je ne le sens pas pour le moment.
Je me permets de vous contredire un peu là-dessus avec l'exemple de ma fille, très concret, hein, mais avec des élèves que, encore une fois, j'ai suivis. Moi, j'ai le sentiment qu'on va s'orienter vers un bac qui restera pas très bon en termes de niveau, mais qui sera une espèce de laissez-passer pour faire une prépa, quelle que soit la filière, pour pouvoir se remettre à niveau et pour pouvoir commencer réellement des études supérieures.
C'est une réflexion qui est souvent dans les tuyaux, si j'ose dire. Ça s'appelait avant la propédeutique. On laisse, on n'a plus beaucoup de temps. La dernière question à Marie-Caroline Missire.
Et très rapidement, je suis frappée par une chose. On est en train de parler très tranquillement de réforme du bac. Il faut voir que dans les dernières années, l'idée même d'une réforme du bac, alors on écrivait explosif, dangereux pour un ministre politiquement, c'est terrible. Les ministres qui s'y sont frottés, comme François Fillon, par exemple, ont été sortis du gouvernement très peu de temps après des manifestations, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans un momentum favorable pour transformer ce bac ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a une fenêtre politique où finalement l'opinion est prête pour réfléchir et accepter un changement de cet examen ?
Pourquoi pas, absolument, toute réforme est tout à fait acceptable, l'idée d'une réforme, y compris l'idée d'une réforme du bac ou des concours des grandes écoles. La question, c'est aller dans le bon sens. Et pour moi, un lycée modulaire qui donne trop de place à l'individualisation ne peut que créer et reproduire des inégalités.
Et donc éventuellement mettre les lycéens dans la rue. Roger-François Gauthier, un mot. Oui,
moi, j'en vois pas ces mots, ni modulaire, ni contrôle continu, tout ça, parce que je crois qu'il faut qu'on invente des choses un petit peu plus nouvelles. Fenêtre de tir, oui, je pense qu'effectivement, le bac doit regagner en signification. Hein. Parce que je veux bien que dans les premiers cycles universitaires, on fasse tout ce qu'on peut pour aider les étudiants, mais il faut quand même qu'au niveau de l'examen, au niveau du lycée, l'État donne des signaux en disant, voilà, il y a la ligne de flottaison en dessous de laquelle il faut pas descendre. Et ça, je crois qu'on a cessé de la donner depuis un certain nombre d'années, il faudrait y retourner.
Il faut aussi donner des signaux en termes de moyens financiers.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Antoine Baldassari, Annabelle Alouche, Roger-François Gauthier. Dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses de Sophie Baudère. Christian Lacroix lui raconte comment il a été passionné toute son enfance par le passé. Une passion qui l'a conduit à devenir couturier puis costumier pour le théâtre et l'opéra. Une obsession pour les époques passées.
Pendant longtemps, j'ai vécu dans le passé le plus total. Mon premier argent de poche, à partir de 7-8 ans, il passait aux puces à acheter des albums de familles anonymes, ou des photos anciennes, ou des gravures.
Mais c'est très rare ça pour un enfant de 7 ans.
Parce que je n'avais qu'une obsession, c'était de remonter, de ne pas avoir connu ce qui s'était passé pendant des millénaires. Et quand on me demandait le rêve inaccessible, le cadeau inaccessible, c'était la machine à remonter le temps.
Et je crois qu'il y a une personne qui a compris ça très tôt, c'est votre grand-mère qui vous a offert, lors de vos 7 ans, une encyclopédie du costume.
Ah, vous en savez des choses. Oui, je l'avais commandée en fait, parce que bon, le Père Noël, je fais semblant d'y croire, mais je savais très bien que c'était dans les catalogues que ça se passait. Et c'était un livre, j'avais remarqué ça, c'est un catalogue qu'elle avait de libraire. C'était un Suédois qui avait écrit ça, je l'ai encore le bouquin. Et c'était toute l'histoire du costume. Toute petite plaquette, et figurez-vous que je m'en suis encore servi pas plus tard que cette semaine pour Denis Podalydès quand on vient de terminer le cantori de Rossini, l'opéra comique, et quand il m'a demandé comment c'était au fait la bourgeoisie 1830, Ben voilà, c'est un livre assez didactique, assez pas primaire parce qu'il est très complet. Et Denis est tombé complètement fou de ses gravures. Donc ce livre-là m'a suivi. Mais si je l'ai commandé, c'est parce que j'étais déjà passionné par l'idée de se costumer et que cette même grand-mère, elle supportait de se laisser costumer. Et chez elle, je me inventais, je ne sais pas ce que c'était, des espèces de scénettes, d'histoires. J'étais passionné d'histoire. J'ai mis très longtemps à me sentir ici et maintenant, dans le présent.
Mais quel genre d'élève étiez-vous ? Plutôt bon élève, plutôt appliqué, plutôt rêveur, plutôt ailleurs, plutôt seul, populaire.
Tout ça à la fois. J'avais ordre d'être le meilleur. Bon, enfin, le royaume des bornes. Enfin, mes camarades n'étaient pas des bornes, mais j'y arrivais. Après, quand je suis arrivé en fac à Montpellier, à Paris, à la Sorbonne, c'était notre paire de manches. J'étais pas tant le meilleur. Solitaire, sûr. Et je crois que cette solitude, quelquefois, donc elle m'attirait des ennemis comme les enfants n'aiment pas la différence. Mais j'avais une résistance passive et j'avais une sorte de. Je suis taureau ascendant lion et je crois que même enfant, ça se sentait. Et je pouvais devenir bagarreur, je pouvais me défendre. Je pouvais faire un peu mal. J'ai jamais été souffre-douleur, par exemple. Mais c'est vrai que ce qui m'aurait intéressé, ce n'était pas de rencontrer Cléopâtre, Napoléon et Marie-Antoinette, c'était de voir comment les gens vivaient dans toutes les couches de la société. Une espèce de sociologue, j'aurais aimé ça.
Oui, il y a un jeu aussi que vous aviez créé lorsque vous étiez enfant et qui est totalement fascinant, dans lequel vous écriviez sur des petits papiers des lieux, des dates et des genres. Vous piochiez ces petits papiers et puis ensuite c'était à vous de les mettre en scène et en costume.
J'avais un peu oublié ça, mais c'était justement consciemment ou inconsciemment en prévision d'être un jour costumier. Effectivement, je tirais des dates, alors homme ou femme d'abord, mettons 68 ans, 12 août 1522 à Budapest, veuve d'un notaire. Après, débrouille-toi. Aujourd'hui, avec Internet, avec tous les bouquins qui existent, on se documente et on trouve. À l'époque, n'existait à part ce livre fameux, après il y en a eu un de M. Boucher qui est paru dans les années 60. Mais j'avais que... Alors, tout ce que je trouvais, je le découpais, je le mettais dans des albums. Tout ce que je trouvais sur l'histoire du costume. Et j'essayais d'imaginer ce que pouvait être cette veuve de notaire à Budapest. Je sais plus la date que je vous ai donnée, dans le 15e, 16e. Et c'était ça. Et aujourd'hui, mon métier, c'est devenu ça. Alors, je crois qu'on n'est pas beaucoup d'adultes à avoir réalisé le rêve de l'enfant qu'on a été.
Mais vos parents, vous prenez au sérieux? Ils étaient OK? Ils validaient ce projet de vie?
Je crois que je les étonnais un peu. Mon père voyait bien que j'étais un peu rétif au foot. Il avait beau m'expliquer les règles. Bon, j'étais un... arrière ou goal, ça allait quoi. Mais sinon le reste, pas très offensif, pas très bon dribbleur. Mais bon, mon père dessinait déjà, mon arrière-grand-père dessinait ou peignait même. Mais ils étaient assez fiers. Et en fait, je crois que le métier que j'ai fait, c'était ça encore aujourd'hui. Pas corrigé, ça serait prétentieux. Mais je me suis rendu compte quand la maison de couture s'est arrêtée, en tout cas pour moi, en 2009. Et que j'ai multiplié les projets de tramway, d'art et de bus,
d'hôtel,
de cinéma, je me suis rendu compte que je continuais ces dessins d'enfant qui redessinaient le monde un peu à sa manière pour se rassurer.
on se quitte en musique. La semaine prochaine, nous continuerons sur cette lancée musicale puisque Sophie Bobert nous proposera un entretien avec le clarinettiste Yom. Nous, nous parlerons de l'acquisition du vocabulaire chez les enfants à l'école, mais aussi ailleurs. En attendant, vous pouvez retrouver Rue des Écoles où, quand et comme vous voulez, grâce à la magie du podcast. Merci beaucoup à Somina à la réalisation et à Jean Frédérix à la prise de son ce soir.